Le haut commissaire en visite communale à Dumbéa, l'État finance les travaux dans deux écoles fortement dégradées lors des émeutes de mai 2024. La fin des doctoriales, les meilleures présentations de thèses ont été récompensées ce matin. Une matinée spéciale pour les élèves de Jules Garnier, elle était dédiée à l'éducation au développement durable. En métropole, mois de septembre compliqué en perspective, démission ou non de François Bayrou, les syndicats entendent faire monter la pression dans la durée. Les préfets reçoivent le soutien du ministre de l'Intérieur. Une plainte a été déposée alors que Jean-Luc Mélenchon a menacé de mettre certains d'entre eux en prison en cas d'arrivée de LFI au pouvoir. Et puis dans la page sport, la fin de l'aventure pour les Françaises au Mondial de volleyball. Elles ont été éliminées par le Brésil en quart de finale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Un magazine dans lequel vous recevrez cette semaine Nicolas Metzorf.
Oui, c'est le député Nicolas Metzorf qui sera l'invité du magazine Transparence et nous reviendrons avec lui, bien sûr, sur la situation politique nationale à quelques jours du vote de confiance demandé par le Premier ministre. Mais nous reviendrons également sur les conséquences que cela peut avoir pour la Nouvelle-Calédonie et pour le calendrier de Bougival. Donc on se retrouve d'ici une petite demi-heure en compagnie de Nicolas Metzorf.
Et à 16h45, ce sera évidemment l'autre rendez-vous du vendredi, le Club politique Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire de ce Club politique, la nomination du nouveau président du Sénat coutumier et son positionnement politique. Nous évoquerons également la situation très problématique du secteur aérien, entre les difficultés d'Aircal et celles d'Aircalin. Nous parlerons aussi tourisme, avec les chiffres publiés par l'ISEE, qui révèlent une chute historique de la fréquentation. Et puis bien sûr, nous aborderons là aussi la situation politique nationale, avec les scénarios possibles et les conséquences que cela peut avoir, notamment pour la Nouvelle-Calédonie. Un club politique qui commence à 16h45.
Le haut-commissaire sur le terrain ce matin, Jacques Billon, poursuit ses visites communales. Et ce matin, c'est donc à Dumbéa qu'il s'est rendu, Léana Colombo.
Oui, une visite toujours en cours qui a débuté à l'hôtel de ville de Dumbéa en compagnie des élus municipaux et du maire de la ville, Johan Lecourieux. Après cet entretien, le haut-commissaire s'est rendu dans les écoles Louise de Gréland et Jacques Minguet, deux établissements qui ont subi des dégradations importantes pendant la période insurrectionnelle de 2024. Des travaux de rénovation financés par l'État à hauteur de 199 millions de francs ont donc été entamés. À Jacques Minguet, ce sont les salles de classe et la cantine qui avaient été incendiées. Les travaux devraient permettre une rentrée des enfants en 2026, mais pour Louise de Gréland, le chantier sera un peu plus long. L'école maternelle Jacques Arandas fera désormais partie du groupe scolaire de Gréland qui accueillera donc 10 classes élémentaires et 3 classes de maternelle. Pour rendre cela possible, des aménagements vont être opérés. Une transformation de 3 classes en section de maternelle sera nécessaire, tout comme la rénovation complète des classes, de la cantine, des salles informatiques, de la bibliothèque et des bureaux avec acquisition de mobilier. Et le haut-commissaire doit encore se rendre à la station d'épuration de la ville, puis dans différents quartiers comme Apogoti, avant de terminer sa visite sur la promenade Jules Renard, mais aussi à la mairie du Nord. À Dumbéa, Léana Colombo, RRB.
Manifestation à Thiot ce matin des parents d'élèves du collège Francis Rouget. Ils protestent contre la fermeture annoncée de cet établissement privé. Après une marche depuis la mission de Thiot jusqu'au village, une délégation de l'APE est reçue en ce moment par le maire de la commune, Jean-Patrick Toura, et son conseil municipal. Justice, la gendarmerie annonce la résolution de l'affaire du cambriolage de Farino. Le 21 juillet dernier, un individu s'était introduit dans une maison et avait agressé physiquement un garçon de 11 ans avant de prendre la fuite. Les images capturées par une caméra de vidéosurveillance ont permis à l'agresseur au jeune homme de reconnaître formellement son agresseur. Celui-ci comparaîtra devant le tribunal correctionnel ce mois-ci. Et puis la troisième session d'assises de l'année s'ouvrira lundi. 6 dossiers seront jugés jusqu'au 23 septembre, Nicolas Legrand.
Oui, 2 affaires de sang et 4 affaires de mœurs. Le premier dossier examiné mardi et mercredi sera celui d'un meurtre survenu le 22 mai 2021 à Coutiot. Dans un contexte d'alcoolisation massive, une bagarre a éclaté entre deux individus âgés d'une quarantaine d'années. Le récit de Claire Lannet, substitut du procureur.
Les faits se sont déroulés dans un contexte, comme très souvent d'ailleurs, sur le territoire, dans un contexte d'alcoolisation massive où deux individus vont en venir aux mains pour des questions futiles, vont se battre. Il sera mis un terme à l'altercation, mais un des deux protagonistes va vouloir revenir. La bagarre va continuer à point nu, sauf que l'un d'entre eux a dans sa poche un ciseau assez effilé et le sortira de sa poche pour emporter plusieurs coups, au moins 3 ou 4 à la victime, dont un l'atteindra au cœur puisqu'il va traverser le ventricule gauche. gauche et l'autre l'atteindra au flanc, perforant le côlon. La victime ne décédera pas immédiatement, raison pour laquelle d'ailleurs la garde à vue a démarré sous la qualification de tentative d'homicide volontaire et finalement requalification en homicide volontaire suite au décès de la victime. La fille de la victime, âgée de 11 ans au moment des faits, était présente dans la maison et a entendu effectivement les hurlements, les cris et la bagarre.
En plus de ce meurtre, au cours de cette session d'assises, une affaire de violence en réunion ayant entraîné une infirmité permanente sur un parking de Dumbéa en 2022 sera jugée ce coup-ci en appel. En première instance, l'année dernière, l'auteur principal avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas fait appel. Le deuxième auteur, à 6 ans, lui non plus n'a pas fait appel. Il était mineur au moment des faits. Quant au troisième auteur, il avait été condamné à 5 ans en première instance et c'est lui donc qui a fait appel. Il lui est reproché d'avoir empêché la victime de fuir au moment des faits lorsqu'elle se relevait et d'avoir filmé la scène. La victime avait été touchée notamment à la tête avec des fractures au crâne et, je le disais donc, souffre d'une infirmité permanente. 4 autres dossiers, je le disais, sont des dossiers de mœurs, parmi lesquels 2 dans le cercle familial sur un temps relativement long. La première affaire de ce cas, il s'agit d'un viol commis sur la cousine de l'auteur de 2014 à 2021. Et puis le deuxième dossier, des 7 ans aux 14 ans de la victime, il s'agit d'un oncle qui a violé sa nièce. Et puis 2 autres affaires de viol, dont un viol relativement vieux, puisqu'il s'agit d'une affaire remontant à 2019, un viol en réunion à Thiot. 2 violeurs sur une dizaine d'individus présents le soir du drame ont été identifiés après que la victime a dévoilé les faits. Voilà donc pour cette session d'assises. Et il y aura une 4e session entre novembre et décembre.
Il est 11h37, la première pause de ce journal, avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
SRB, le spécialiste de l'aluminium, pour vos fenêtres, baies vitrées et garde-corps en verre. Vous voulez des baies vitrées de grande taille, qui glissent facilement et qui durent dans le temps? Choisissez la robustesse de l'aluminium SRB pour un habitat design et sécurisé. SRB Aluminium, 25 ans d'expertise au service de votre tranquillité. Demande de devis au 28 12 50 ou à contact@srb.nc.
La ville de Nouméa organise une édition particulière de sa fête du sport ce samedi 6 septembre à la piscine du Wentoro.
Rendez-vous de 8h à 13h pour une matinée 100% sport aquatique.
Venez à la rencontre des associations sportives qui vous ont préparé de nombreuses activités.
Jeux ludiques, tests de niveau et différentes initiations. À l'apnée, au hockey subaquatique ou encore à la natation synchronisée. Une journée placée sous le signe de l'information et pourquoi pas de l'engagement en s'inscrivant auprès d'un club.
Et pour l'occasion, l'entrée sera gratuite toute la journée à la piscine du Wentoro et au centre aquatique de Nouméa situé à Magenta.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'UNC organisait hier et ce matin la 18e édition des Doctoriales, une manifestation scientifique et académique qui met en lumière la richesse et la diversité des thèmes de recherche explorés par les doctorants et doctorantes sur le territoire, mais aussi dans le Pacifique, Léo Fichou.
Oui, 12 doctorants et doctorantes ont présenté leurs travaux lors de plusieurs séquences à l'UNC, mais aussi à la CCI, devant un public attentif et bien évidemment devant aussi un jury qui a ensuite pris le temps de délibérer pour départager ces jeunes chercheurs. Retour sur cette session avec Jean-Marc Boyer, directeur de l'École doctorale du Pacifique.
Un très bon niveau de présentation à la fois sur la forme et le fond du contenu scientifique et on va dire des jeunes qui travaillent au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie de demain. Le succès repose sur les doctorants, ce sont eux qui font le succès de chaque édition, notamment par la qualité des travaux présentés et également le jury. Je me dois de remercier le jury qui se mobilise pendant un jour et demi. On récompensé la meilleure présentation des étudiants de première année, de deuxième année et plus, et le troisième prix est un prix de valorisation des résultats scientifiques, la valorisation s'entendant, comme j'ai déjà dit, donc en valorisation sociale, sociétale ou économique. Voilà, potentiel.
Et c'est donc Sophie Cherrier, doctorante en quatrième année, qui a remporté ce prix de la valorisation pour ses recherches sur les neurosciences cognitives en éducation. Elle ne s'attendait pas du tout à cette récompense, on l'écoute.
Alors au départ je devais pas faire les doctorales parce que comme j'ai déjà pas mal communiqué etc, il m'avait été dit que j'avais pas nécessité de le faire et puis au dernier moment ils m'ont dit si c'est une obligation. Donc voilà, et comme je suis en fin de thèse là, je l'ai fait parce que je dois le faire, ça fait partie du chemin du doctorant. Et du coup bah oui là je sais pas. pas réalisé que j'allais me retrouver à valoriser ma recherche, mais bon, je vais voir un petit peu comment on peut valoriser effectivement la recherche que j'ai effectuée à l'université auprès des étudiants. dans le domaine des neurosciences. Et puis, je vais réfléchir un petit peu à ce qu'on, comment on pourrait valoriser les choses. J'avoue que ça m'est un peu tombé dessus, donc pas forcément réfléchi à tout ça.
Et donc, est-ce qu'on peut rappeler votre thèse, sur quoi elle portait ?
Alors, ma thèse, elle porte sur les neurosciences cognitives en éducation. Comment apprendre aux élèves comment fonctionne leur cerveau va leur permettre effectivement de mieux réussir à la fois d'un point de vue académique, mais aussi d'un point de vue personnel, en fait.
Un prix accompagné de 300 000 francs pour l'aider dans ses recherches et donc dans la valorisation de son travail. On notera également que Cédric Houari a remporté le prix première année pour sa thèse sur les plantes médicinales phares en Nouvelle-Calédonie. Le prix deuxième année et plus a été décerné à Adriana Louga pour son étude sur la leptospirose.
Le lycée Jules Garnier organisait lui une matinée dédiée à l'éducation du développement durable. Et pour cet événement, une vingtaine de stands et de partenaires associatifs étaient présents. Xavier Gauthier est enseignant au lycée Jules Garnier et c'est le référent à l'éducation au développement durable.
L'objectif principal, c'est l'éducation, c'est quand même notre rôle. Donc les découvertes de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie grâce à ces bénévoles et à ces institutions. Cette éducation au travers du professionnel, de l'extérieur du lycée, par l'expérience, par bien souvent, on ne connaît pas forcément tout ce qui se fait autour de nous. Donc c'est bien d'apprendre par les petites expériences qui sont proposées, par les illustrations et par le contact directement et les échanges avec les personnes. La formation, la citoyenneté, comment s'investir, pourquoi on s'investirait pas nous-mêmes dans ces associations-là si on est intéressé pour donner son sang, par exemple. On a plein de thématiques et ça permet de faire évoluer les mentalités, donc accompagner nos élèves au final.
Et une initiative qui a particulièrement intéressé les élèves qui étaient présents lors de cette matinée solidaire.
Je pense que c'est une journée, oui, qui a été très utile au lycée pour permettre à tout le monde de découvrir plein d'associations, plein d'activités à faire en dehors du lycée.
Et puis ça permet à plein de personnes de découvrir différentes associations, que ce soit au niveau financier par exemple. Il y a des associations qui viennent pour parler un peu d'eux.
Cette journée, elle est bien parce qu'on apprend chaque association.
Enfin, c'est divers et je trouve que c'est super bien parce que c'est rare qu'on nous en parle. Bien souvent, on voit des pubs, des trucs comme ça, mais personne ne s'y intéresse vraiment. Alors que là, les associations, elles présentent des activités qui nous permettent de découvrir un peu mieux, de s'intéresser un peu plus.
C'est à nous de monter au mieux la journée. En tout cas, elle compte beaucoup pour nous parce que ça met en valeur toutes les petites associations qui nous aident au quotidien.
Et rappelons que chaque année, depuis 10 ans maintenant, le lycée Jules Garnier organise une journée pour traiter toutes les thématiques liées au développement durable. La Nouvelle-Calédonie à la conquête de l'espace. Hier, le CNES et l'armée de l'air et de l'espace organisaient une conférence à la station N sur les opportunités que représente le spatial pour le territoire. Un secteur qui représente des débouchés importants et qui devient de plus en plus accessible. L'armée, mais aussi les institutions et les entreprises privées peuvent exploiter des données transmises par les satellites. Le colonel Alban Jean Grandpierre, commandant de la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein, était ce matin notre invité.
Nous nous sommes rendus compte que l'espace était encore méconnu et que l'espace paraissait très loin et difficile d'accès. Donc l'objectif de cette conférence était de montrer ce qu'on pouvait faire avec l'espace. Aujourd'hui, le New Space et la miniaturisation des technologies a permis de complètement changer l'état d'esprit. Et aujourd'hui, le satellite est plus vu comme un véhicule, comme un transporteur, dans lequel on va mettre une charge utile qui va prendre de la vidéo, qui va transférer de la donnée, qui va analyser de la donnée. Et donc, on a cette agilité, cette souplesse qui permet, avec des moyens relativement limités, avec juste des idées, d'aller capter pas mal de projets. Et notamment au niveau de la défense, il existe l'Agence d'innovation défense qui a un budget de 7 milliards sur d'ici 2030 pour justement faciliter, pas uniquement dans l'espace, aussi dans le cyber, mais pour aller capter des idées et voir comment ces idées peuvent être exploitées pour défendre notre territoire.
Et ce marché de la data pourrait représenter des opportunités importantes, poursuit le colonel Alban Jean-Grandpierre.
Des données qui ne sont pas utilisées peuvent être analysées, exploitées et ensuite revendues par des start-up. Il y a des exemples, alors c'est des exemples civils où des données photographiques ou infrarouges sont analysées pour essayer d'identifier les départs de feu. Des sociétés analysent ces données et lorsqu'on a une anomalie dans la photo, ils le signalent et ça permet de prévenir les services de secours. L'important est de connaître ces opportunités, de savoir ce que l'on peut faire, vers où aller. Et l'objectif, c'est de montrer toutes ces opportunités pour faire germer des idées et pour que des entreprises voient les opportunités, développent une filière, que ce soit spatiale, cyber, ou alors géographiquement, la Nouvelle-Calédonie étant assez proche de l'équateur, ça donne aussi des opportunités pour tout ce qui est lancement.
D'autres conférences seront organisées sur les opportunités de l'espace, notamment pour des applications civiles.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier. Après la chute historique de la fréquentation touristique à la suite des exactions de mai 2024, 90% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la Nouvelle-Calédonie ne va pas parvenir à relancer sa filière touristique. Ils ne sont que 10% à penser qu'elle va arriver à le relancer. Voici notre question du jour. En cas de chute très probable du gouvernement Bayrou le 8 septembre, pensez-vous qu'Emmanuel Macron va décider de dissoudre l'Assemblée nationale ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Nous allons revenir sur l'actualité politique aux métropoles dans un instant. Mais avant cela, un détour par l'Australie. Le Premier ministre a annoncé que son pays allait reconnaître la création d'un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Mais cette décision fait grincer quelques dents, y compris celle de l'ancien Premier ministre libéral John Howard, Jean-Pierre Zajac.
John Howard et celui qui fut son ministre des Affaires étrangères, Alexander Downer, ont déclaré dans un communiqué commun que la reconnaissance de l'État palestinien est, je cite, « prématurée » et qu'elle constitue, je cite encore, « une trahison du droit international ». Cela va créer un précédent dangereux, ont-ils dit, et enraciner la division au lieu de promouvoir la paix. Les deux anciens hommes politiques ont également estimé qu'Anthony Albanese et son ministre de l'Intérieur, Tony Burke, ont sapé une relation durable de confiance entre l'Australie et Israël. Aucune considération, ont-ils regretté, n'a été accordée au fait qu'Israël demeure la seule véritable démocratie au Moyen-Orient. Reconnaître prématurément la Palestine n'est pas seulement une piètre diplomatie, c'est une imprudence et un grave danger, ont-ils conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il sera 11h48 dans quelques secondes. Une nouvelle pause avant de voir dans un instant l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Du 12 au 14 septembre, les producteurs de l'IFOU Marais et Ouvéa vous invitent à l'IFOU pour la foire des îles Loyauté.
Venez faire le plein de bons produits frais des îles et de souvenirs inoubliables. Et profitez-en pour découvrir ou redécouvrir l'IFOU.
Avec le forfait transport plus 3 nuits d'hébergement chez l'habitant pour seulement 27 900 francs par personne.
Réservation sur notre site illoyautéexplorer.nc ou au 27 70 50.
À bientôt à l'IFOU.
Monsieur Bricolage revient le 3 septembre à 9h à Dumbéa au Dumbéa Mall Green Retail. Maison, jardin, déco, outillage, tous les univers de Monsieur Bricolage dans un nouvel espace de 900 m² optimisé pour aller à l'essentiel. Bon plan d'ouverture, jeux, cadeaux, on est si heureux de vous retrouver.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Oui, où le mois de septembre s'annonce compliqué. Le 8, le Premier ministre devrait tomber. François Bayrou dit ne rien regretter de son choix de mettre en jeu la confiance de son gouvernement. S'il venait à quitter Matignon, il souhaite qu'Emmanuel Macron s'attelle à chercher un nouveau Premier ministre plutôt que de prononcer une dissolution de l'Assemblée nationale. Deux jours plus tard, le 10 septembre, les syndicats appellent à une journée « Bloquons tout ». Même si François Bayrou n'est plus à Matignon, un mouvement qu'ils entendent poursuivre dans le temps, puisqu'une semaine plus tard, le 18 septembre, une journée compliquée est annoncée dans les transports en commun. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Le 18 septembre s'annonce comme un jeudi noir pour les usagers de la SNCF. Il y aura d'ailleurs des perturbations sur les rails. Dès le 10 septembre, Sudrail, troisième syndicat, a pris les devants en lançant un préavis de grève pour s'associer au mouvement Bloquons tout. Mais le gros de la mobilisation ferroviaire est attendu le 18 pour Fabrice Charrière, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. Le projet de budget menace les cheminots comme l'ensemble des travailleurs.
Les annonces qui ont été faites par le Premier ministre concernent l'ensemble des salariés. Quand on parle de limiter les dépenses liées aux prestations, la suppression de deux jours fériés, l'ensemble des salariés sont concernés et des futurs retraités également, puisqu'on parle également de la fin de l'abattement de 10% sur le calcul de l'impôt, par exemple. Dans le ferroviaire, les salariés sont concernés, comme tous les salariés.
En Île-de-France, les transports en commun risquent aussi d'être paralysés le 18. À la RATP, la CGTFO, l'UNSA et la CFE-CGC appellent à cesser le travail. Les contrôleurs aériens se greffent aussi au mouvement avec le préavis déposé par le premier syndicat de la profession. Enfin, chez Air France, FO et la CFDT suivent également.
Et cette séquence politique et syndicale va mobiliser les préfets, des préfets qui sont la cible d'attaques de Jean-Luc Mélenchon. Il a menacé de mettre certains d'entre eux en prison en cas d'arrivée de LFI au pouvoir. Une plainte a été déposée et les préfets ont reçu le soutien du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Certains voudraient transformer ce climat d'appréhension, de tension, en climat d'insurrection. Ce sont des révolutionnaires aux petits pieds qui rêvent de grands soirs. Eux, pour parvenir à leur fin, voudraient utiliser tous les moyens. Ce sont des esthètes de la violence qui veulent provoquer, qui veulent insulter, qui menacent à tour de bras. L'ingénieur en chef, vous le connaissez, c'est monsieur Jean-Luc Mélenchon. Et le leader Maximo, le gourou des insoumis, a promis les préfets, dès qu'il arriverait au pouvoir, à la prison. C'est la honte absolue, bien évidemment. Il promet pas la prison aux délinquants, aux haineux de l'antisémitisme. Il avait l'habitude de les draguer. La République, ça n'est pas lui. La République, c'est vous.
Bruno Retailleau lors de la conférence des préfets réunie la nuit dernière, place Beauvau. Selon toute vraisemblance, la France se retrouvera donc sans Premier ministre le 8 septembre au soir. Selon toute vraisemblance, Emmanuel Macron privilégie la recherche d'un nouveau Premier ministre plutôt qu'une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il a appelé le socle commun à s'élargir à gauche. Et du coup, le premier secrétaire du Parti socialiste se sent pousser des ailes. Olivier Faure fait clairement campagne pour être nommé à Matignon. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Poussé par la demande d'Emmanuel Macron d'élargir le socle commun aux socialistes, Olivier Faure y voit une nouvelle opportunité de postuler à Matignon. Le premier secrétaire du PS juge l'hypothèse crédible après les échecs de Michel Barnier et de François Bayrou.
Nous savons toutes et tous qu'il n'y a aucune solution majoritaire et donc nous avons le mérite de présenter une offre. Et je répète, nos groupes parlementaires, le Parti socialiste a fait des propositions, les écologistes et les communistes et les ex-insoumis ont aussi fait des propositions qui rejoignent les nôtres. Il y a donc là une base de travail sur laquelle nous pouvons entamer des discussions.
Un moyen de mettre la pression à Emmanuel Macron, qui depuis la dissolution de 2024 s'est toujours tourné vers la droite pour tenter de gouverner. La nomination d'un Premier ministre PS semble donc peu probable, tant le chef de l'État est attaché à ne pas déconstruire la politique de l'offre mise en place depuis 2017. Un tel scénario ferait d'ailleurs sortir les ministres LR du gouvernement et rendrait la nouvelle coalition encore plus minoritaire qu'aujourd'hui.
Après la politique, les faits divers en métropole et ce cambriolage au Musée national de la porcelaine à Limoges. Les malfaiteurs ont dérobé des pièces classées trésor national. Il s'agit d'un vase et de deux plats dont la valeur estimée est à 550 millions de francs. Et puis dans le sud-ouest, ce sont les églises qui sont visitées et cambriolées depuis le mois de mai dernier. 28 faits ont été signalés, principalement dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. 3 suspects ont été interpellés. Stéphane Place pour Europe 1.
Le tabernacle systématiquement forcé, les calices ou ciboires dérobés, depuis le mois de mai, de multiples vols d'objets religieux étaient commis dans des églises des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Une vingtaine prises pour cible dans le diocèse d'Eredax en juin dernier. L'évêque avait d'ailleurs recommandé aux prêtres de dissimuler les objets dans un endroit sécurisé comme la sacristie. C'est la gendarmerie de Dax qui a mené l'enquête pour identifier ces 3 suspects, âgés de 21, 27 et 32 ans, inconnus de la justice pour des faits de vol, explique le procureur. Un trio interpellé lundi dans la soirée. Après, c'est une précision qu'apporte le magistrat, la commission de nouveaux faits lors de cette arrestation. Les gendarmes ont bien sûr procédé à une perquisition du véhicule, ce qui a permis, souligne le parquet, la saisie de plusieurs objets religieux subtilisés le jour même dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces 3 hommes seront jugés par le tribunal correctionnel le mois prochain pour 28 faits qualifiés de vol de biens dans des édifices affectés au culte, accompagnés d'actes de dégradation. En attendant leur jugement, ils ont été placés en détention provisoire.
L'actualité à l'étranger, 26 pays principalement européens, s'engagent à soutenir militairement l'Ukraine dans les airs, sur le sol et en mer. Après la mise en œuvre d'un éventuel cessez-le-feu, Emmanuel Macron réunissait la nuit dernière à l'Élysée une rencontre de la coalition des pays volontaires. C'était jour de deuil au Portugal, au lendemain du terrible accident sur le célèbre funiculaire de la Gloria. Il a dévalé la pente avant de finir dans un immeuble après avoir déraillé. L'accident a fait 16 morts et un blessé grave. Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, a promis que toute la lumière serait faite sur cet accident.
Notre ville a besoin de réponses et au nom de tous les Lisboètes, je vous assure que tout sera vérifié. J'ai demandé au président de la société qui gère les funiculaires de Lisbonne d'ouvrir non seulement une enquête interne, mais aussi externe et indépendante.
Le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, et puis toujours à l'étranger, il incarnait le savoir-faire italien. Giorgio Armani s'est éteint à l'âge de 91 ans. Couturier, il était aussi un homme d'affaires qui avait diversifié ses productions, notamment les montres, les bijoux, les parfums ou encore les meubles de prestige. 11h55, dans un instant, le sport. Et ensuite, ce sera le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Vous avez des projets choc plein la tête? Vous rêvez de changer de voiture, de partir en voyage fin loin ou de développer votre activité? Socalfi, c'est la solution de financement simple, rapide et flexible. Auto, moto, bateau, pro, conso, parce que chaque projet est important. Socalfi finance toutes vos envies. Contactez-nous au 448 448 ou sur notre site socalfi.com.
C'est ça qui est bon!
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Le sport avec d'abord du tennis et place aux demi-finales à l'US Open. C'est un choc ce matin entre la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka et la numéro 4 Jessica Pegula. Les deux joueuses sont dans le troisième set, sachant qu'elles ont remporté chacune un set. Et dans l'autre demi-finale, on retrouvera une autre américaine, Amanda Anisimova, qui affrontera Naomi Osaka, vainqueur de l'US Open en 2018 et 2020. On passe au cyclisme, Léo Fichou. C'était la 12e étape du Tour d'Espagne la nuit dernière et c'est Juan Ayuso qui s'est imposé au sprint.
L'Espagnol de l'UAE Team Emirates a signé sa deuxième victoire sur la Vuelta cette année après avoir remporté la 7e étape. La nuit dernière, il a devancé son compatriote Javier Romo. Le français Brieux Roland lui termine 3e. Juan Ayuso devient le 4e coureur déjà à gagner deux fois sur cette édition du Tour d'Espagne après Jasper Philipsen, son coéquipier Jay Vine et le leader du classement général Jonas Vingegaard. Le Danois possède d'ailleurs 50 secondes d'avance sur Joao Almeida au classement général, 56 secondes sur Tom Pidcock. Le premier français Bruno Amirail est 6e à 2 minutes 23 du leader.
En volée, le rêve des joueuses de l'équipe de France s'arrête en quart de finale du Mondial.
Et les Bleus étaient pour la première fois de leur histoire à ce stade de la compétition. Elles affrontaient le Brésil. Malgré une magnifique performance lors des deux premiers sets qui étaient très accrochés, 25-27, 31-33, l'équipe de France, avec notamment la Calédonienne Sabine Ewegene, se sont inclinées en trois manches. La troisième manche, 19-25 pour le Brésil. Dans le dernier carré, le Brésil affrontera l'Italie. Dans l'autre demi, le Japon sera opposé à la Turquie.
Et puis un mot de golf pour terminer, pour signaler qu'après sa victoire sur le South Pacific Junior Open organisé à Tina à la fin du mois d'août, Hugo Koch intègre le classement mondial amateur. Il pointe à la 4859e place et pourrait grappiller quelques rangs déjà ce week-end puisqu'il est engagé sur le Texas Intercollège. Il est 11h58, c'est la fin de ce journal. Mais Infomac se poursuit dans un instant avec le magazine Transparence. Je vous rappelle que cette semaine, Elisabeth Nord reçoit le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.